VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Raissa Girondin en direct de Washington pour Le Monde aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. À la une, le Congo-Brazzaville, le général Jean-Marie Michel Mokoko condamné à 20 ans de prison ferme. Dans le même temps, les évêques congolais ont dressé un bilan sévère des maux qui frappent le pays.
Mais le régime Sassou est pied au mur. Le régime Sassou est maintenant composé des sourds qui n'entendent plus rien.
En République démocratique du Congo, l'Organisation mondiale de la santé se prépare à faire face à une augmentation du nombre de cas Ebola.
On travaille main dans la main avec le gouvernement et d'autres partenaires pour essayer d'apporter une réponse efficace.
Au Niger, la procédure du au point mort est dénoncée par les avocats de membres de la société civile incarcérée. Le ministre iranien des Affaires étrangères entame demain une tournée diplomatique pour tenter de sauver l'accord nucléaire. Dans la Minute Éco, décollage d'une nouvelle compagnie aérienne sénégalaise et avant-goût des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Au Congo, Brazzaville, verdict au procès du général Jean-Marie Michel Mokoko, ancien candidat à la présidentielle de 2016. Il a été condamné par la cour d'appel de Brazzaville à 20 ans de prison ferme, même peine pour ses 7 co-accusés. Nous avons en direct au téléphone le porte-parole du général Mokoko, Marc Mapingu. Bonsoir. Marc Mapingu, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Votre réaction suite à la condamnation de Jean-Marie Michel Mokoko?
Écoutez, nous n'avons pas de surprise. Hein. Nous savions que c'était un procès stalinien, Kafkaïen. Et très tôt, depuis mon jeune âge, on est habitué à ce genre de procès au Congo-Brazzaville, depuis que M. Sassou Nguesso à l'arène un peu de ce pays. C'est pour cette raison que nous avons eu une conférence nationale où on pensait balayer ce type d'habitude et de pratique.
Pouvez-vous nous rappeler pourquoi il a été reconnu? Pouvez-vous nous rappeler pour quelle raison il a été reconnu coupable?
Écoutez, nous sommes justement, c'est une question qu'il faut plutôt poser à ses bourreaux, notamment à Monsieur Sassou Nguesso qui est à l'origine de toute cette manipulation et de tout ce montage juridique. Donc c'est une question à laquelle je ne suis incapable de vous répondre. Ce que je sais, c'est que Monsieur Sassou Nguesso a été battu en 2016 à l'élection présidentielle et il a fait de Mokoko, qui n'a pas voulu reconnaître sa pseudo-victoire, une victime et un otage.
Bon,
et aujourd'hui, Mokoko est en train de payer tout ça.
D'accord. Je voudrais juste ajouter que Jean-Marie Michel Mokoko dispose de 3 jours pour se pourvoir en cassation. Donc, nous suivrons le reste de l'actualité. Merci beaucoup pour votre intervention. Concernant toujours le Congo-Brazzaville, la conférence des églises épiscopales demande la libération de tous les prisonniers politiques. Les évêques invitent aussi le gouvernement à faire un audit de la dette du Congo, de tous les projets réalisés particulièrement dans le cadre de l'accord de coopération avec la Chine et de tous les fonds obtenus grâce au préfinancement pétrolier et de leur utilisation. Nous y reviendrons dans les dossiers du jour. L'hôpital central de la ville de Bikoro, dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo, a reçu un nouveau cas suspect de fièvre hémorragique Ebola. L'Organisation mondiale de la santé juge élevé le risque de propagation de l'épidémie dans le pays. Les précisions avec Jacques Aristide.
Bikoro est la ville la plus proche de la localité d'Ikokompenge où sont apparus les premiers cas. Hier, le ministère congolais de la Santé a confirmé un premier décès de la nouvelle épidémie et a déclaré que 11 autres cas sont confirmés, dont 3 membres du personnel médical. La RDC a informé l'OMS de l'existence d'un foyer le 8 mai et a comptabilisé 32 cas suspects depuis le 4 avril. 18 décès ont été enregistrés, même si la fièvre Ebola n'est pour l'heure confirmé que dans l'an des 18 décès. À Genève, l'OMS dit se préparer au scénario du pire en RDC, y compris à l'extension de l'épidémie à Bandaka, la capitale de la province de l'Équateur. L'agence onusienne espère que Kinshasa donne dans les jours à venir le feu vert à l'utilisation d'un vaccin expérimental, mais souligne que ce vaccin ne serait pas d'une utilisation aisée et n'agirait pas comme une baguette magique.
Signalons qu'en France, la famille de Naomi Moussanga, d'origine congolaise, a déposé plainte pour non-assistance à personne en danger et mise en danger de la vie d'autrui contre les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Moquée par une opératrice du SAMU, Naomi Moussanga n'avait été emmenée à l'hôpital que plusieurs heures plus tard, avant son décès, fin décembre, en France. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a appelé les anciens combattants à jouer un rôle central dans la campagne électorale des législatives et présidentielles prévue d'ici fin août afin d'assurer la victoire du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Ces élections seront les premières depuis la chute en novembre dernier du président Robert Mugabe. Au Niger, le dossier de la trentaine d'acteurs de la société civile arrêtés en mars dernier pour organisation et participation à une manifestation interdite n'avance pas. Chose inquiétante selon leurs avocats qui ont tenu à dénoncer la situation. Le point avec le correspondant de VOA Afrique à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
Le premier groupe de ces 26 acteurs de la société civile a été placé sous mandat dépôt dans différentes prisons du pays le 27 mars dernier par un juge désigné pour instruire le dossier. Depuis, aucun acte n'a été posé dans cette instruction selon les avocats de la défense. Jamais le juge n'a demandé à entendre ou partir rencontrer les prévenus comme prévu par la loi. Les avocats ont ainsi introduit une requête afin de dessaisir ce juge du dossier du fait de son inaction, requête adressée au président du tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Mais c'est le bureau du procureur, parti comme les avocats au procès, qui a répondu négativement. Entre-temps, l'état de santé de certains détenus a nécessité des examens dans les centres de santé de la capitale, mais leur évacuation traîne, aggravant leur situation. Pour toutes ces raisons, le conseil d'avocats des acteurs de la société civile a décidé de porter plainte pour détention arbitraire. Abdulrazak Idrissa, Niamey, VOA, Afrique.
La police sud-africaine a indiqué qu'elle ignorait toujours le mobile de l'attaque au couteau d'hier dans une mosquée de la banlieue de Durban. Un homme a été tué, deux autres grièvement blessés. Toutefois, la police indique avoir identifié des signes d'extrémisme. Les auteurs présumés armés de couteaux sont entrés jeudi dans une mosquée chiite de Verulam et ont égorgé un homme et en ont poignardé deux autres avant de mettre le feu sur le lieu de culte. Amnesty International dénonce la condamnation à mort par un tribunal soudanais d'une adolescente accusée d'avoir tué son mari. L'organisation estime que Noura Hussein Ahmad, 19 ans, est plutôt une victime et la peine prononcée à son encontre est d'une cruauté intolérable. La jeune femme a été condamnée à mort pour avoir tué l'homme que son père l'avait forcé à épouser à l'âge de 16 ans.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, entame demain une tournée diplomatique pour tenter de sauver l'accord nucléaire après le retrait des États-Unis. Il se rendra à Pékin, Moscou et Bruxelles.
Mohamed Javad Zarif entame une tournée pour tenter de sauver l'accord nucléaire iranien. Il commence sa tournée dimanche à Pékin, puis se rendra à Moscou. Le président russe et la chancelière allemande Angela Merkel ont déjà discuté de la situation liée au programme d'action conjoint, c'est-à-dire l'action sur le programme nucléaire iranien. Dès lundi, Vladimir Poutine doit recevoir le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a déjà déclaré que Téhéran respecte les termes de l'accord de 2015. Monsieur Poutine s'était dit profondément inquiet du retrait américain de cet accord annoncé par le président Donald Trump. Mardi à Bruxelles, Javad Zarif doit rencontrer ses homologues français, allemands et britanniques, ainsi que Federica Mogherini, la chef de la diplomatie de l'Union européenne.
Et c'était Marie Benson. Les États-Unis inaugurent lundi leur ambassade à Jérusalem malgré le tollé suscité par cette décision annoncée en décembre dernier par le président Donald Trump. Le président américain va d'ailleurs s'exprimer par message vidéo lors de la cérémonie d'inauguration de l'ambassade. La reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël et le transfert de l'ambassade américaine était une promesse de campagne de Donald Trump. Nous y reviendrons dans la deuxième partie de cette édition. Un Palestinien a été tué par des tirs de soldats israéliens lors du septième vendredi consécutif de manifestations à la frontière avec la bande de Gaza. L'homme de 40 ans a été atteint à la poitrine, a précisé le ministère de la Santé dans la bande de Gaza sous contrôle du Hamas. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La nouvelle compagnie aérienne Air Sénégal SA inaugure lundi sa première liaison quotidienne entre Dakar et Ziguinchor dans la région touristique de Casamance. Elle a pour ambition de desservir aussi bien des lignes intérieures et des lignes internationales. Elle est entièrement détenue par l'État du Sénégal avec un capital de 40 milliards de francs CFA. Elle est aussi appelée à ouvrir son actionnariat à des privés qui ont commencé à se manifester. Les évêques du Congo-Brazzaville demandent un audit de la dette du pays de tous les projets réalisés dans le cadre de l'accord de coopération avec la Chine et autres pays concernés. La dette à l'égard de la Chine constitue 40% du total. La pratique des préfinancements pétroliers avec les traders a également contribué à alourdir l'endettement. Les évêques demandent au FMI de tout faire pour que la lutte contre la corruption, la concussion et la promotion de la bonne gouvernance demeurent des critères intangibles pour la signature d'un programme éventuel. Les cours du café Robusta et de l'Arabica ont fortement reculé et effacer leurs gains prononcés de la semaine précédente pour renouer avec leur niveau de fin avril. Le cacao a encore repoussé ses récents sommets à Londres et a atteint mardi 1971 livres sterling à la tonne, à son plus haut depuis un an et demi, mais les prix se sont repliés sur la semaine. Les prix du sucre ont enregistré une légère baisse sur la semaine. Le marché souffrait de récoltes records en Inde et en Thaïlande, deux des quatre plus grands producteurs mondiaux.
Et c'est la musique d'ambiance qui annonce le sport. Bonsoir Nicolas Pinault.
Bonsoir Raïssa, bonsoir à tous.
Éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans ce week-end.
Le deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans 2019 débute ce vendredi avec un choc Algérie-Ghana. Ce tour marque l'entrée en lice des pays les plus performants dans cette catégorie d'âge depuis des années. À suivre demain, Malawi-Angola, Mozambique-Afrique du Sud, Burundi-Soudan, Botswana-Congo, Gabon-Côte d'Ivoire, Rwanda-Zambie, Guinée-Bissau-Nigeria, Ouganda-Cameroun, Burkina Faso-Libye, Sénégal-Égypte et Mauritanie-Guinée et dimanche la Tanzanie face au Mali et la Gambie face au Bénin.
Nouveau titre en vue pour la Juventus.
Oui, la Juve est en route pour un quatrième doublé consécutif. Après la Coupe d'Italie décrochée mercredi, le club turinois n'a besoin que d'un point contre la AS Rome dimanche lors de la 37e et avant-dernière journée pour remporter son 7e Scudetto d'affilée. Avec 6 points d'avance et une différence de but très favorable à 2 journées de la fin, il faudrait un véritable tremblement de terre pour éviter que la vieille dame ne décroche son 34e titre.
Procédure disciplinaire ouverte contre Buffon, le gardien de la Juve.
Eh oui, l'UEFA a ouvert à l'encontre du gardien de but de la Juventus Turin, Gianluigi Buffon, exclu lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions. Une procédure disciplinaire. On se souvient que le 11 avril, alors que la Juve menait 3-0 dans le temps additionnel et se dirigeait vers une prolongation, l'arbitre avait sifflé un pénalty contesté par le gardien de la Juve qui avait été exclu pour protestation.
Et enfin, le tennis, tournoi de Madrid.
Le Sud-Africain Kevin Anderson, 8e joueur mondial, a enfin franchi le cap des quarts de finale en Masters à sa 11e tentative. Il a dominé le Serbe Dusan Lajovic, 95e joueur mondial. Le score 7-6, 3-6, 6-3. Le finaliste du dernier US Open avait buté à ce niveau de la compétition à 10 reprises, dont 2 fois cette saison à Indian Wells puis à Miami.
Merci Nicolas Pinault.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. L'Organisation mondiale de la santé juge élevé le risque de propagation de l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. L'agence, qui a enregistré 32 cas, dont 18 décès depuis le 4 avril dans la région de Bikoro, veut mettre en place un pont aérien. 9 pays voisins sont en état d'alerte et le risque a été jugé élevé pour la Centrafrique et la République du Congo. Le point avec Tariq Jazarevic, le porte-parole de l'OMS, joint par Nathalie Barge.
On a maintenant des équipes sur place dans la province Équateur, dans une petite localité à quelques heures de la ville de Bikoro. On travaille main dans la main avec le gouvernement et d'autres partenaires pour essayer d'apporter une réponse efficace. Donc on a une équipe conjointe qui est arrivée le lendemain de la déclaration du gouvernement, une équipe du gouvernement, des autorités sanitaires, MSF et l'OMS, pour voir où est-ce que le virus a pu circuler, quels sont les gens qui sont à risque, et aussi de mettre en place un centre de traitement, un programme de suivi de contact, des interventions sécurisées, et aussi on est en train de voir comment déployer un laboratoire mobile pour pouvoir effectivement confirmer ou écarter les cas suspects.
Vous proposez de mettre en place un pont aérien.
Donc on parle ici non seulement des experts qu'on veut déployer, mais aussi des médicaments, des kits de protection, un laboratoire mobile. On a besoin vraiment d'établir un pont aérien, que ce soit avec hélicoptère ou encore mieux avec des petits avions qui pourraient avoir un peu plus de capacité et de cargo.
Vous savez s'il y a des pistes d'atterrissage dans cette région?
C'est exactement ça le sujet de discussion, pour savoir si la piste d'atterrissage à Bikoro peut donc recevoir des avions. Mmh. Où il faudra faire par les hélicoptères qui, effectivement, ont moins de capacité.
L'OMS propose un vaccin.
Il faut déjà voir qui est identifié comme cas suspect, qui est identifié comme contact. Parce que si on fait une vaccination par la méthode de l'anneau, donc vacciner les contacts des contacts, donc il faudrait avoir des listes précises des gens à vacciner avant. Vous rappelez que l'année dernière, il y avait une épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo, dans une autre localité, c'était à Likati. Le gouvernement a donné son feu vert et les préparations avaient bien commencé pour utiliser le vaccin, mais finalement, il n'a pas été utilisé tout simplement parce qu'il n'avait plus besoin. On a réussi à arrêter la propagation des virus par les méthodes traditionnelles. On ne sait pas comment ça va se passer cette fois-ci, donc on se prépare, mais l'essentiel c'est vraiment d'avoir une meilleure compréhension de la situation épidémiologique sur place.
Tariq Jazarevic, porte-parole de l'OMS à Genève.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Et on en parlait dans le journal, les évêques du Congo-Brazzaville ont dressé un bilan sévère des maux qui frappent le pays. Sans ménager le pouvoir, ils demandent un dialogue politique le plus large possible et un audit de la dette. Les évêques soulignent aussi le besoin d'une justice équitable et indépendante. Pour un commentaire, Eric Manirakiza joint à Paris l'ex-ministre congolais des hydrocarbures et membre actif de l'opposition congolaise en Europe, Benoît Koukébéné.
Je dois vous rappeler que les évêques du Congo sont souvent impliqués dans les problèmes que connaît notre pays. Ça a été le cas pendant la conférence nationale souveraine en 91. Et là, aujourd'hui, leur analyse est vraiment correcte. Il y a tous les problèmes qui concernent la bonne gouvernance, il y a tous les problèmes qui concernent la corruption. Ils pointent l'endettement colossal du pays, 120% du PIB. Et les prêtres ont raison, les évêques ont raison d'avoir noté ça. Et les évêques ont raison de parler de la crise dans le pôle, les crises, parce qu'il n'y a pas qu'une crise dans le pôle. Depuis longtemps, depuis 1998, le pôle est, n'est-ce pas, victime de beaucoup de crises, des crises politiques, des crises militaires et tout le reste. Voilà.
Quel est l'impact que cette déclaration va avoir sur le régime Sassou?
Mais le régime Sassou est pied au mur. Le régime Sassou est maintenant composé des sourds qui n'entendent plus rien, et voire même des aveugles qui ne voient plus rien. Les choses se passent devant eux, ils n'entendent pas, ils ne voient pas. Et le pays ne fait que sombrer, n'est-ce pas, dans la crise. L'impact que ça va avoir, je suis sûr, de personnes comme nous autres, comme moi, j'apprécie ce qu'ils ont fait. Et je suis sûr qu'au Congo, beaucoup de gens apprécie cela. Et puis, il faut ajouter que le Congo, c'est un pays quand même à plus de 80% chrétien. Donc, quand les églises parlent, quand les évêques parlent, il y a quand même des gens qui les écoutent. Donc, les gens vont, à partir de ce moment, être encore plus réveillés, parce qu'il y en a qui sont un peu lâchés, parce que tout ce qu'on a essayé ne marche pas. Donc, les gens sont un peu dans le relâchement. Et puis, il faut reconnaître aussi que les gens sont massacrés, on les arrête, on les tue. Alors, voyez-vous. Donc, les gens sont un peu désabusés.
Les évêques demandent la libération des personnes en prison à la suite des contentieux politiques. Qu'est-ce que vous pensez qu'ils font allusion au général Jean-Marie Michel Mokoko, par exemple?
Les évêques, d'une manière générale, ont toujours demandé la libération de tous les prisonniers politiques. Parce qu'aujourd'hui, le maximum de gens qui peuplent les prisons du Congo-Brazzaville, ce sont les prisonniers politiques. Indépendamment de têtes d'affiche comme Jean-Marie Michel Mokoko, Kombi Salissa, Paulin Makaya et les autres. Mais on arrête même leurs enfants, on arrête même leurs partisans, on arrête un peu tout le monde comme ça au hasard. Aujourd'hui, récemment, on arrête les jeunes qui collent les affiches et tout. Ça doit les inquiéter dans leur fondement. Il y a le procès stalinien de Jean-Marie Michel Mokoko. L'évêque de Kinkala, Monseigneur Portela, avait déjà alerté le pouvoir à plusieurs reprises. Mais le pouvoir restait sourd. Mais aujourd'hui, les choses commencent à changer et ce procès, justement, va être un révélateur de tout ce qui se passe, de tous les complots montés de toutes pièces contre les citoyens.
C'était Benoît Koukébéné, ancien ministre congolais.
Dans l'Amérique et vous ce soir, à partir de 19h temps universel, grande victoire diplomatique pour l'administration Trump avec la libération de 3 citoyens américains détenus par Pyongyang. Quel signal pour le sommet Donald Trump-Kim Jong-un du 12 juin 2018 à Singapour et quelle portée pour la diplomatie américaine à l'heure où les alliés des États-Unis analysent l'impact de la sortie de Washington de l'accord nucléaire avec l'Iran. Pour participer à cette émission, laissez vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous contacter au 001 202 205 26 33. Rendez-vous ce soir à partir de 19h30.
Au Kenya, le camp de réfugiés de Kakuma, le plus grand du continent, est-il un fardeau ou une opportunité économique? Une étude commanditée par la Société financière internationale de la Banque mondiale révèle que c'est plutôt un lieu de grande consommation, donc un terrain fertile à l'investissement privé dans les finances, par téléphonie mobile ou le secteur de l'énergie. Daniel Scherf a fait le tour de ce camp. Son reportage est rendu par Idriss Fall.
Les réfugiés gèrent plus de 2000 petites affaires dans le camp de Kakuma. Ils vendent tout ou presque, depuis la Wi-Fi à la nourriture en boîte. Beaucoup de ces petits vendeurs payent des taxes même s'ils ne reçoivent rien en retour de leur pays d'accueil, alors que les revenus du camp viennent essentiellement de l'aide. L'homme d'affaires Mestim Getahoun est un réfugié éthiopien.
Je n'ai rien amené ici. J'ai commencé mon affaire dans ce camp avec zéro. J'ai commencé à chercher du travail, travailler pour les gens, et j'en suis arrivé là.
Pour la Société financière internationale, un groupe de la Banque mondiale, Kakuma est débordante d'une économie informelle. La SFI appelle les investisseurs privés à saisir cette opportunité. Michel Bodzang, du bureau de la SFI à Nairobi.
Oui, certes, le secteur privé est là pour faire de l'argent. Le secteur privé, en retour, doit apporter des opportunités d'emploi pour la population d'accueil et pour les réfugiés. De meilleurs services, plus durables, à notre avis, c'est l'expérience de la SFI durant ses 60 ans d'existence et aussi apporter une croissance économique à une région.
Ce camp datant de 26 ans et la ville voisine de Kakuma représente une économie combinée de 56 millions de dollars et l'équivalent du dixième de la population kényane. Benjamin Ekal Ekouam, propriétaire de la librairie Kakuma Peana.
Près de 70% de nos affaires viennent du camp des réfugiés, particulièrement des ONG qui travaillent sur place.
La population du camp a presque doublé ces 5 dernières années. Les réfugiés viennent de 18 pays, mais les dernières arrivées proviennent essentiellement du Soudan du Sud. Soukrou Kazim Zoglou dirige le HCR à Kakuma.
Est-ce que les réfugiés doivent simplement dépendre de l'aide humanitaire? Le rapport de la SFI montre que l'économie va bien au-delà de ce que fournissent les agences humanitaires.
Le réfugié somalien Hassan Mohamed Adan a été plus chanceux. Il avait emprunté de l'argent à des proches pour commencer un business, mais les restrictions l'empêchent de devenir légalement propriétaire ou de louer une maison, circuler librement et établir un partenariat avec un Kenyan.
Alors nous avons besoin de papiers. Nous avons aussi besoin de soutien parce que nous avons besoin d'argent.
Et il y a peu de chances que le Kenya lève les restrictions imposées aux réfugiés. Le HCR essaie de faire des avances en argent liquide à la place des distributions de vivres, ce qui, pour la SFI, devrait attirer davantage d'investisseurs privés.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les États-Unis inaugurent lundi leur ambassade à Jérusalem. Ce transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem concrétise l'annonce faite le 6 décembre dernier par le président Donald Trump, reconnaissant Jérusalem comme capitale d'Israël. Pour une analyse, Yacouba Ouedraogo a joint le professeur Eli Carmon, chercheur au centre interdisciplinaire de l'université de Herzliya à Tel Aviv.
C'est une décision politique, mais aussi symbolique, importante pour le peuple israélien. Et je crois aussi pour la communauté internationale, finalement, parce que toutes les instances officielles, la Cour suprême, les gouvernements ont leur siège à Jérusalem. Et c'était un peu étrange que la majorité des pays ne reconnaissent pas, au moins, Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël.
Vous le disiez tantôt, le Parlement israélien et le gouvernement sont déjà à Jérusalem. Le Congrès américain avait déjà voté cette loi sur la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. Le président Trump reconnaît, on va dire, de droit, ce qui était déjà une reconnaissance de fait.
Oui, bien sûr. Après les accords d'Oslo, il y avait déjà 15 ambassades à Jérusalem. Mais à cause des pressions des pays arabes et de l'autorité palestinienne, et aussi à partir de l'intifada, c'est-à-dire la violence palestinienne à partir de 2000, ces ambassades ont été retransférées à Tel Aviv. Avant la déclaration du président Trump, le ministère des Affaires étrangères russe a déclaré que, du point de vue russe, Jérusalem-Ouest est la capitale d'Israël. Mais ils n'ont pas décidé le transfert d'ambassade.
Alors, justement, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que d'autres pays emboîtent le pas aux États-Unis?
Oui, comme je dis, Guatemala et le Paraguay. Et la Roumanie a décidé aussi, il y a un problème juridique là-bas, qui va décider le président ou le premier ministre. La Tchécoslovaquie, c'est un processus maintenant juridique dans le pays. Et je crois que même le Panama avait intention de faire ce transfert.
L'inauguration coïncide avec le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Le lendemain, les Palestiniens commémorent la Nakba, l'exode de centaines de milliers d'entre eux chassés de ce lieu. Faut-il s'attendre à des débordements?
Oui, il y a surtout ce qui se passe à Gaza, parce que le Hamas tente d'utiliser le problème des réfugiés palestiniens et longtemps déjà, depuis un mois et demi, d'organiser chaque vendredi des manifestations violentes qui incluent aussi des attentats terroristes à la frontière avec Israël. Le 15 mai sera un jour très difficile, mais j'espère que ça va passer sans beaucoup de personnes qui perdent la vie.
Quel pourrait être l'impact de ce transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem sur les relations des États-Unis avec la communauté internationale?
Je crois pas qu'il y ait une vraie réaction, sauf peut-être celle des Palestiniens et peut-être la Turquie a été beaucoup plus agressive dans ce domaine. Mais on voit que les pays arabes, en général, membres de la Ligue arabe, surtout les pays du Golfe, l'Arabie saoudite, les Émirats et l'Égypte, tentent de négocier avec les Américains et avec Israël une solution pour l'ouverture de négociations de paix nouvelle.
C'était Eli Carmon, chercheur au centre interdisciplinaire de l'université de Herzliya à Tel Aviv. Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma à la mise en onde, Thomas Blandet à la console, Raissa Gironda à la présentation. On reste connectés sur Facebook, sur notre site internet voafrique.com pour plus d'actualités. On commémore aujourd'hui le triste anniversaire du décès de Bob Marley, l'artiste jamaïcain. Quoi de plus normal que de lui consacrer ce morceau ? Excellente suite de programme.